Chapitre 5. Le lundi, jeudi 8 juin 1922, Madame Bessarabot et sa fille comparaissaient devant la cour d'assises. Les débats étaient présidés par le grand magistrat que M. Gilbert. L'avocat général Mansel occupait le siège du ministère public. Madame Bessarabot était défendue par Maître Moreau-Giaferi, remplaçant Maître Campinqui et par Maître Cuillier. L'héritier, M. Raymond Hubert, assistait Mademoiselle Pauline Jacques. Au bord de la partie civile, on remarquait Mademoiselle Henri Weissmann, M. Gustave Zeissmann, Mademoiselle Robert Lafont, Madame Lafont, M. Lafont, M. Vignac, tous parents de la victime, en grand deuil, et qui avaient décidé d'intervenir au procès par l'intermédiaire de Maître d'Orville. Dans le prétoire, parmi les pièces à conviction amoncelées dans de grands paniers en osier, la malle lugubre, décrit le rédacteur du petit journal, surprenait au premier abord par ses petites proportions et son aspect indigent de chapelière de premiers gens et de pauvres gens. C'était une humble petite malle en toile jaunâtre, fanée, un couvercle légèrement bombé. Et comment les meurtrières ont-elles pu caser leurs cadavres de leurs victimes dans un cadre aussi exigu? La première idée qu'elles suggéraient était que ces dames devaient avoir une poigne peu banale. À côté voisinaient des paperasses scellées de rouge, des valises plus somptueuses, mais défraîchies et des couvertures bariolées. À midi trois quarts, Madame Bessarabot et sa fille étaient introduites dans le box des accusés. Pâle, amaigrie, les cheveux blonds roulés en boucle sous un chapeau de soie de velours noir, revêtue d'un long manteau de drap bleu sombre, genre tailleur et coiffée d'un petit canotier en velours et ruban noir, les traits ravagés, l'air indifférent, la démarche automatique, Madame Bessarabot s'asseyait sans même jeter un regard autour d'elle. Moins pâle et plus grasse, plus petite, un peu boulotte, montrant sous une cloche de paille grise à peine plumes de même couleur d'où débordait une opulente chevelure brune, un visage replet et rose, Mademoiselle Paul Jacques était habillée d'un tailleur gris très simple, ouvert sous une chemisette de notes gris tendre. Et ce fut avec un air innocent et placide de petite jeune fille bien sage qu'après avoir jeté un long regard indifférent sur l'assistance, elle s'assit tranquillement entre les deux gardes. Après avoir répondu d'une voix à peine perceptible à l'interrogatoire d'identité que leur faisait subir le président, la mère et la fille se préparaient à écouter la lecture de l'acte d'accusation. Il exposait d'une façon fort claire aux jurés les détails que nous connaissons sur la vie de Madame Bessarabot jusqu'à la date du crime, dont, ainsi qu'on l'a vu plus haut, il attribuait le mobile au désir qu'avaient les coupables de s'approprier la totalité d'une commission de 600 000 francs sur laquelle Bessarabot avait promis à sa femme de lui en abandonner 10 000. À l'aide de témoignages qu'il estimait décisifs, le ministère public exposait que Weissmann Bessarabot avait été sans cesse de la part de sa femme l'objet d'instantes demandes d'argent et qu'il appréhendait de passer la nuit auprès d'elle. Se refusant à croire que, malgré sa liaison certaine avec une dactylo, il eût été abattu à l'issue d'une scène de jalousie, et n'admettant pas un seul instant que Madame Bessarabot, si coutumière de faux aveux contradictoires, eut expédié à Nancy une malle de documents compromettants pour son mari. Il concluait à la culpabilité de Madame Bessarabot et à la complicité de sa fille en l'assassinat de l'infortuné négociant. Pendant toute cette lecture, les deux inculpés demeurèrent impassibles. Ensuite, le président commença l'interrogatoire. « Dame Weissmann, levez-vous, » fit-il. « Vous vous êtes expliqué longuement sur les origines de votre famille qui est honorable. Nous n'y reviendrons pas. » Vos premières années de jeunesse ont été exemptes de tout reproche. Vous étiez une élève studieuse, intelligente, et vous avez même remporté certains succès, comme pensionnaire au Sacré-Cœur de Fourvière, où l'une de vos compositions eut la gloire d'être imprimée et publiée, première de vos succès futurs et d'un talent qui serait injuste de contester. Vous vous êtes rendu ensuite au Mexique, vous avez fait un excellent mariage, vous avez eu deux enfants, vous sembliez alors être une femme très heureuse. Mais je l'étais, soulignait l'accusé d'une voix sourde. Alors pourquoi, interrogeait M. Gilbert, avez-vous quitté le Mexique? N'était-ce pas pour venir chercher à Paris un théâtre plus convenable pour votre talent littéraire? Non, répliquait Mme Bessarabot. La gloriole littéraire n'y fut pour rien. Elle n'a jamais existé, cette gloriole. La situation de votre mari était prospère. Vous aviez la dépensé à 100 000 francs par an, à peu près. Oui, mais deux incendies avaient compromis la situation de mon mari. Nous dûmes changer d'appartement. Ne serait-ce pas un peu aussi, fit le président, parce que votre conduite, quand vous habitiez avenue de la Tour Maubourg, laissait à désirer. Tout cela, ce sont des mots, dit l'inculpé. On verra les faits après. On a dit que je cachais ma correspondance à mon mari. Mais je lui cachais seulement les nouvelles du désastre de ses affaires au Mexique. Et l'on verra ce qu'en diront les témoins. Parlons de la mort de M. Jacques. Immédiatement, Mme Bessarabot, dont la voix s'était affermie, déclarait « Oh, depuis longtemps, il avait des idées de suicide et il souffrait beaucoup de l'estomac. » « À ce moment d'ailleurs, convenait le président, rien ne parut suspect et le corps ne fut même pas autopsié. Et depuis, l'information a été ouverte et elle n'a pas encore réussi à infirmer la version du suicide. Toutefois, des témoins ont certifié que l'existence de M. Jacques n'avait pas été ce que l'on pouvait croire et qu'il avait été particulièrement malheureux par votre manière d'agir, par votre vie et par votre conduite. « Je proteste !» s'écriait Mme Bessarabot. « Ce sont des mensonges, des calomnies. Jamais je n'ai eu d'amant. C'est moi qui voulais divorcer. » Trois fois je voulais partir, trois fois mon mari va me rechercher. Et pourquoi donc ces personnes qui m'accusent aujourd'hui n'ont-elles pas parlé au moment même? Quel mensonge! Monsieur Jacques n'était pas un poète, un romancier. S'il avait eu à se plaindre de moi, il me l'aurait dit. Tout cela est abominable. Et indignée, elle s'écriait en se tournant vers la salle. Il y a ici 500 personnes pour entendre la vérité. Il y en a des millions dehors pour entendre mes mensonges. Depuis l'âge de 25 ans, j'ai travaillé pour vivre. Je n'avais pas besoin d'assassiner M. Jacques pour cela. C'est entendu, faisait le président. Vous n'avez pas été inculpé. Mais, intervenait l'avocat général, si le nom de Mme Bessarabot n'a jamais cédé dans la procédure, il y a eu des soupçons à son égard, et ces soupçons, je les conserve et j'en parlerai ici. Je vous répondrai, ripostait Maître Beaurocher à Ferry. Et on en a profité, clamait Mme Bessarabot en se frappant la poitrine. Oui, on en a profité dans la presse pour déverser sur moi des torrents de boue. Ce qui est certain, appuya le président, c'est que vous infligez une vie si infernale à votre premier mari qu'il a manifesté la crainte d'être empoisonné par vous. « Mais des mots, toujours des mots !» répondait Mme Bessarabot. « Ah, mais voici ce qui n'est pas seulement des mots !» reprenait le président. « C'est une lettre écrite par M. Jacques le 4 octobre 1908 à M. le chanoine Plaisant. » Où il vous déclare capable de le faire disparaître si vous pouvez le faire avec impunité. Où il vous accuse d'avoir tenté de l'empoisonner en lui donnant du sublimé au lieu du pyramidon. Où il vous reproche de fréquenter des déclassés, des voyous, d'aller au théâtre avec des chenapans, où il déclare que s'il vient à mourir de mort subite, de mort accidentelle, on devra y regarder de près, car sa femme y sera sans doute pour quelque chose, et où enfin il déplore de se voir forcé et de subir votre contact infâme. « Mais des mots, je répète que cela, ce sont des mots !» s'obstina l'accusé. « Mon premier mari n'avait été suggestionné par sa famille à mon égard. Les plus grands savants sont venus dans mon salon. Ils n'ont pas trouvé une femme qui faisait la fête, mais une femme laborieuse et consciente du rôle social qu'elle pouvait assumer dans la littérature. Oui, j'ai reçu les plus grands écrivains contemporains. M. Pierre-Louis, Henri Bataille, le sieur Péladan, Madame Morel, M. Jean de Bonnefonds, etc., etc. Jamais je n'ai eu d'amant. Si vous insistez, vous assimilez une alliance spirituelle à l'adultère. Oui, mais d'amant, je n'en ai jamais eu. Oh, il y a pourtant au dossier des lettres suggestives. Une entre autres, où il est question des entraînements des éléments orientaux. Moi, j'ai écrit cela, bondissait la femme de lettres. Pas vous, mais Monsieur Robert V. Oh, un poète qui faisait des poèmes à la déesse et qui me les envoyait. Et moi, intervenait Monsieur de Moreau-Giaferi. Puisqu'on a lu des lettres de M. Jacques accusant sa femme d'avoir voulu l'empoisonner, je me réserve d'en lire d'autres que le même M. Jacques a écrit à sa femme pour lui demander pardon. Le président suspendait l'audience. À la reprise, M. l'avocat général Mancel prenait l'initiative de donner lecture des lettres que l'on avait retrouvées dans une enveloppe attachée à la casquette dont on avait affublé M. Jacques dans son cercueil. M. Jacques y parlait de ses intentions de suicide et accusait son associé, M. Dominiques. « Mais à tort !» s'écriait Mme Bessarabeau. Le président poursuivait. « Une domestique aurait affirmé que vous versiez une poudre blanche dans le potage de M. Jacques, et qu'elle aurait averti votre mari. « Mais pas du tout, protestait Mme Bessarabeau. C'est moi qui disais à mon mari, « Mon ami, tu me rends ridicule en disant dans ce quartier que je t'empoisonne. Je sais plus qu'à m'en aller. Les témoins honorables ont déclaré que vous êtes capable de tout. Mais M. Jacques m'aimait. Il me disait que je voulais le tuer, mais ce sont des mots. Mon mari était un ancien berger. » « S'il m'aimait, c'est que je le méritais. »« Maintenant, reprochait M. Gilbert, occupons-nous de votre second mari. »« Dites tout d'abord comment vous l'avez connu. » Étant venu en 1914 au Mexique pour régler la succession que m'avait laissée M. Jacques, ce fut à Toledo que je rencontrai George Weissmann Bessarabeau. La première fois que je le vis, il m'avoua sa misère avec une entière franchise. Il avait subi une série de désastres du fait des révolutions mexicaines. Il ne pouvait donc m'être matériellement d'aucun secours, mais moralement très précieux. Et c'est à lui que je dois l'arrangement de la succession de mon premier mari. Je ne le connaissais à ce moment que sous le nom de Bessarabeau. J'ignorais qu'il s'appelait Weissmann et qu'il n'était que français naturalisé. Et ce n'est qu'en 1917 que j'eus connaissance de ce nom de Weissmann. L'avocat général intervenait. Mais vous ne pouviez pas ignorer que votre fiancé, à son mariage, fournissait d'entre autres pièces un passeport au nom de Weissmann Bessarabeau. À ce moment, je n'ai pas songé à examiner les pièces d'identité de mon mari. Tout ce que je puis vous dire, c'est que Georges ne fit aucune difficulté pour accepter un coup de messe et la chinoiserie d'un curé à domicile. Quel âge avaient à ce moment vos filles? Paul avait 17 ans et Lily 15 ans. Et Bessarabeau, 47 ans. Et vous, un an de moins. Vous avez prétendu qu'étant fiancé, vous aviez confié 10 000 piastres à M. Bessarabot. Que sont-elles devenues? Oh, je ne les ai jamais revues, affirmait l'inculpé. D'ailleurs, une fois marié, j'ai dû payer plus d'une dette de mon mari. Et si nous avons quitté Mexico, c'est parce qu'il était l'objet de 2 mandats d'amener pour avoir mis en circulation des billets dévalorisés. Grave accusation que vous portez là, observait M. Gilbert. Oh, j'ai fait pour lui plus d'un sacrifice. Je l'aimais. Mais à quoi bon insister sur les questions d'argent? Entre mon second mari et moi, ce n'est pas une question d'argent qu'il y a eu, pas plus d'ailleurs qu'un drame d'amour. C'est un drame de conscience que j'expliquerai aux jurés, car je leur dois la vérité. Ce qui est sûr, précisait le président, c'est qu'en 1916, vous écriviez à votre belle-mère que votre mari était très bon pour vous et très bon pour vos enfants, bien que ce fût des enfants terribles. Et à ce propos, je me demande comment on peut concilier ces sentiments avec l'accusation que votre fille Paul a portée contre votre mari de lui avoir fait la cour, sitôt après votre mariage. Se dressant à son banc, Mademoiselle Paul s'écriait: C'est exact! Vous maintenez cette accusation? Demandait M. Gilbert. Je la maintiens. Et vous n'en avez rien dit à votre mère? Non, monsieur. Votre haine contre votre beau-père ne date-t-elle pas de la rupture de vos fiançailles avec un de ses employés, M. Georges Laborde, qu'il avait renvoyé? Ce n'est pas mon beau-père qui a rompu mes fiançailles, c'est moi seul parce que M. Laborde avait une liaison avec une actrice. Mais votre beau-père non plus ne voulait pas de ce mariage. Oh, c'est exact, il faillit même avoir un duel à ce sujet. Ma mère empêcha son mari de se rendre sur le terrain. Et je dis à mon fiancé, tu ne peux pas tuer le mari de ma mère. Mais votre mère, elle acceptait-elle ce mariage? Elle s'y opposait, elle aussi. Aussi, concluait Maître Bordereau-Ferry, ne peut-on fonder aucune accusation sur une prétendue haine de belle-fille à beau-père? Cet incident vidé, le président interrogeait la femme de lettres sur les débuts de son ménage à Paris. J'étais heureuse alors, disait l'inculpé. Mon mari ne gagnait rien, 60 francs par semaine. Quel bonheur, me disais-je. Tout l'argent que gagne mon mari, je sais d'où il vient. Oui, j'étais heureuse. Pourtant, vous aviez des difficultés d'argent. Bon, c'est-à-dire que j'ai été bientôt assaillie par les créanciers de mon mari. Et le meilleur de ce que je possédais passa à des intéressés. Ce dont la plainte avait provoqué les 2 mandats d'amener dont il était menacé. L'avocat général questionnait. Vous avez fait vous-même des spéculations malheureuses. Vos éditions littéraires devaient vous occasionner certains frais. Mais non, protestait Hamirtel, je ne m'occupais pas de littérature. J'avais bien d'autres choses à faire. Ainsi, reprenait le président, la littérature n'a été pour rien dans vos différends avec votre mari. Mon mari ne m'a jamais reproché ma littérature. Il avait toujours mes romans à son chevet. Est-ce alors des griefs d'intérêt qu'il y avait entre vous? Oh, nullement. Vous ne lui avez pas fait d'avance d'argent? Si. Mais je ne lui en ai jamais fait grief. J'étais la première à lui offrir l'argent dont il avait besoin. Alors, quel était le sujet de vos démêlés? La conduite de votre mari, qui laissait en effet à désirer? Ses infidélités, qui constituaient, j'en conviens, une faute grave à votre égard? Mais non, s'écria Myrtle, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de bien autre chose. Il arrivait chez moi des lettres douloureuses. L'une d'elles disait: Si vous continuez à promettre des choses que vous ne pouvez pas tenir, et mon mari dînait avec des militaires, il s'occupait d'affaires de réforme frauduleuse. Oh, je ne parle pas de l'espionnage, ce n'était pas un espion, un suppôt de l'Allemagne, C'était un affamé qui promettait ce qu'il ne pouvait tenir et sans intention de trahir. Vous l'avez pourtant accusé dans l'une de vos plaintes, intervenait maître Gilbert. Ben, c'est que mes paroles ont dépassé ma pensée. Que pouvais-je faire en apprenant de pareilles choses? Je ne pus m'empêcher de lui exprimer toute mon indignation. Alors il se jeta à mes genoux et me supplia de ne pas le livrer. Soit, lui dis-je, mais alors tu partiras d'ici. Le président faisait observer. Nous avons une lettre de votre mari à votre beau-frère, racontant la scène d'une façon toute différente. Il vous accuse nettement d'avoir, dans un accès de jalousie, tenté de l'étrangler. Il n'a jamais dit cela devant moi. Il portait au cou les traces de vos griffes, selon ses propres expressions. Oui, quand il voulut m'arracher des lettres compromettantes que je tenais de lui, je me suis défendu. Mais Sarrabaud, reprenait M. Gilbert, avait gardé de cette scène un tel souvenir qu'il avait fait encadrer un calendrier où deux dates étaient soulignées. La date du jour où une balle mexicaine avait passé au-dessus de sa tête et la date du 3 mars 1918 où il échappa à vos griffes. « Je n'ai jamais étranglé personne », affirmait avec feu la femme de lettres. Ce que mon mari redoutait de moi, ce n'était pas mes violences, c'était des lettres que je gardais. Cette plainte que vous aviez postée contre votre mari, reprenait M. Gilbert, vous l'avez retirée? Madame Bessarabot répliquait. Oui, parce qu'il m'avait envoyé un message de paix. Oh, dites plutôt, rectifiait l'avocat général Mansell, parce qu'il vous avait promis une part dans une commission qu'il devait toucher. C'est vous-même qui l'avez précisé dans la lettre de retrait de cette plainte. Ainsi, il est établi que vous vous êtes désisté que parce que vous avez été payé. Moi, payé ? S'indignait l'inculpé, mais je n'ai jamais touché un sou. C'est-à-dire, intervenait maître de Jouche-Ferrache à Ferreri, que Mme Bessarabot, comme je l'expliquerai, se vit garantir que les dots de ses filles seraient sauvegardées. Et moi, à mon tour, je constate que M. Bessarabot, qui prétend avoir été victime d'une tentative d'étranglement de la part de sa femme, ne porta pas plainte contre elle et qu'il n'en pas dit un seul mot à l'inspecteur de police qui l'interrogeait. Car sur la plainte de sa femme, il y eut un commencement d'instruction. J'établirai même qu'il a payé, ou du moins qu'il a consenti à céder une part de la commission pour que sa femme retire la plainte portée contre lui. Alors qu'il eût été si simple d'aller trouver le commissaire et de lui dire « Ma femme a voulu m'étrangler ». Messieurs les jurés apprécieront. Et sur cette apostrophe du grand avocat, le président leva l'audience. Le lendemain, devant une salle comble, l'audience s'était ouverte à midi précise. Madame Bessarabot revenait prendre place au banc des accusés, l'air décidé, l'allure combative. Quant à sa fille, elle avait le même aspect que la veille, c'est-à-dire celui d'une jeune personne timide et bien élevée. C'était elle que le président Gilbert allait à son tour questionner. Après avoir rapidement interrogé Mademoiselle Paul Jacques sur son enfance et sa jeunesse, le président, revenant sur la scène si violente du 3 mars 1918, entre les deux époux, lui demandait « Étiez-vous alors favorable à une réconciliation de votre mère avec votre beau-père ?»« Oui, monsieur le président. » « Je regrette, reprit ce dernier, de constater que votre mère a affirmé le contraire dans l'une de ses lettres. Elle a écrit « Voudrais-je me réconcilier que l'opposition de mes filles m'en empêcherait ?» Tandis qu'une lueur de colère flambait dans ses yeux, Madame Bessarabot s'empressait d'intervenir. « Au début, fit-elle, ma fille fut hostile, mais elle changea ensuite d'avis. » Et, profitant de ce qu'elle avait la parole, elle se mit à répéter ce qu'elle avait déjà affirmé la veille, c'est-à-dire que pour rentrer sa plainte contre son mari, elle n'en avait touché aucun argent. Le président lui demandait: Votre mari ne vous avait-il pas promis de vous rétrocéder 100 000 francs sur une commission de 600 000 qui lui avait été promise par la maison Olivier en retour de ses bons offices pour la levée d'une option relative à une sucrerie et à un terrain pétrolifère au Mexique? Oh, je ne me suis jamais fait d'illusion sur la réalité de cette promesse. Je n'ai jamais espéré toucher la commission. Le président objectait. J'ai sous les yeux une lettre où vous dites être certaine que l'affaire aboutira. Madame Bessarabot se lançait alors dans une véritable conférence au cours de laquelle elle s'efforçait de convaincre le jury qu'en raison de la variation du cours de la piastre au Mexique, elle eût été folle de croire à la réalisation de cette commission. Maître de Moreau Giafferi, sentant que, loin de servir sa cause, sa cliente ne pouvait au contraire qu'indisposer les jurys par ce bavardage intarissable, demandait au président de lire entièrement la lettre à laquelle il venait de faire allusion. Le président, aussitôt, accédait à sa requête et donnait lecture de cette missive adressée par Madame Bessarabot à sa fille et où il était dit notamment: Quant à Bessarabot, prends-le par la ruse. C'est ainsi que tu parviendras à tout. L'affaire d'Éan sera bientôt réglée, et avant 2 mois, nous serons payés. Et sitôt l'argent d'Éan assuré, sous toutes ses formes, vous verrez revenir pour affermir votre résistance à tous quatre. Et le président de conclure: Après de telles lettres, à qui ferez-vous croire que vous ne comptiez pas sur cette affaire de commission? Sans se laisser démonter le moindrement, Madame Rescamo ripostait. Oh, je vous répondrai par une lettre de Monsieur Dehan m'annonçant qu'il ne fallait pas y compter. Oh, mais vous excellez à répondre à côté. Mais je n'ai rien touché. Vous n'avez rien touché, c'est vrai, et nous vous dirons pourquoi. Mais vous espériez toucher. Votre lettre est formelle. Vous dites à vos filles que vous allez revenir avec leur dot et assurer leur existence. C'est que je ne voulais pas révéler à ma fille le vrai motif de mon retour. J'avais retrouvé mon mari dans une situation des plus prospères, et j'avais sur la sourde cette prospérité et des doutes que je ne voulais pas confier à mes enfants. D'ailleurs, intervenait Maître Giovanni Giafferi, je vais vous demander, Monsieur le Président, de faire donner la lecture intégrale de la lettre en question. Et vous verrez alors, messieurs les jurés, s'il est question de prendre Monsieur Bessarabot par la ruse. Il s'agit d'avoir recours à certaines précautions pour l'empêcher d'engager à nouveau les actions que sa femme espérait toucher. Le président faisait aussitôt lire la lettre par le greffier, et l'avocat, satisfait, se rasseyait à son banc. Le président poursuivait. Les plus vifs dissentiments existaient entre votre mari et vous. De nombreux témoins en déposeront et diront quelles étaient les craintes de votre mari. Votre fille allait jusqu'à lui dire: Vous verrez comment on joue du revolver à Mexico. Est-ce vrai, mademoiselle? Madame Bessarabot voulait intervenir. Enfin, monsieur! Mais monsieur Gilbert lui coupait la parole. Taisez-vous, madame, faisait-il, je m'adresse à votre fille. Mademoiselle Paul Jacques affirmait. Ni notre concierge, ni notre femme de chambre n'ont entendu ces propos. Ce sont des gens étrangers à la maison qui les rapportent. Mais oui ou non, les avez-vous tenus? Peut-être dans un moment de délire. Je savais ma mère malheureuse en ménage. Dame Bessarabot, reprenait le président, d'autres témoins encore diront combien votre mari redoutait votre fille et se méfiait de ses gentillesses à son égard. Tout ce que je répondrai, s'écria la femme de lettres, c'est qu'il rentrait néanmoins à la maison. Et il y rentrait de son chef, dans cette maison où vous dites qu'il nous redoutait. Et moi, formulait mademoiselle Jacques, je demanderai en quoi consistait cette gentillesse extraordinaire qui surprenait mon beau-père. Uniquement en ceci, que je lui ouvrais la porte quand il entrait. Oh, vous n'avez pas toujours dit cela. s'écriait Monsieur Gilbert. Et de même que votre mère, ce n'est pas la première fois que vous vous serez contredite. Mais revenons à cette affaire de commission. L'échéance approchait, et la date fixée était celle du 31 juillet. Et, dame Bessarabeau, votre mari, vous avez racheté votre part de commission, et cela à la date du 2 juillet 1920.
Oui, moyennant 30 000 francs qu'il ne m'a pas versés.
Vous persistez à dire que vous ne croyez pas que l'affaire se ferait.
Parfaitement.
Mais tout le monde était persuadé, affirmait l'avocat général, que l'affaire aboutirait. Les documents en font foi. On avait dépensé 500 000 francs en frais d'études. Et le président reprenait. Votre fille était-elle au courant de cette affaire de commission?
J'ai pu en entendre parler, répliquait Mademoiselle Jacques.
Mais elle n'a rien entendu, répliquait sèchement Madame Bessarabeau. Mais puisqu'elle-même elle le reconnaît, observait le président. En vérité, vous êtes peut-être un peu trop pressé de venir au secours de votre fille.
Pour secours, secours, répétait l'accusé en haussant les épaules.
Alors, imperturbable, M. Gilbert, coupant court à l'orage qui s'annonçait, reprenait. Revenons à la commission. Vous étiez si sûr que l'option serait levée au 31 juillet et que la commission serait touchée, que c'est vous qui rassuriez l'un de vos intéressés qui exprimait des doutes sur la levée de l'option. Et vous croyez si bien la réalité de cette affaire que vos préparatifs étaient faits pour votre départ au Mexique.
Puis-je vous dire le but de ce voyage? Demandait Mademoiselle Jacques. La maison de commerce. De feu, mon beau-père avait été décédé par ma mère et le contrat venait à échéance le 31 juillet.
Dame Bessarabeau, reprenait le président, vous avez fait une démarche à la Compagnie Générale Transatlantique pour retenir des places. L'employé a remarqué que vous étiez fort surexcité.
Pouf, faisait Madame Bessarabeau d'un air méprisant. Il a dit mieux que ça. Il s'est servi d'autres expressions que je ne répéterai pas.
Et qu'a-t-il dit?
Il a dit, oh, quelle horreur que je... Ça commence par un G.
Eh bien, je vais le dire, s'impatientait M. de Montrouge à Ferry. L'employé prétendait qu'elle gueulait.
Et d'un ton grave et solennel, Mme Bessarabeau martelait.
D'abord, moi, je ne fais jamais de scène.
À ces mots, un vaste éclat de rire secoua la salle. Le président amenait aussitôt le silence par une de ses interventions pleines d'énergie et de bonhomie dont il a le secret.
La location de vos places sur le bateau, reprenait-il, a dû vous être assez malaisée. D'après ce que vous avez déclaré vous-même, vous n'aviez pas l'argent nécessaire.
Madame Bessarabeau ripostait.
Oh, je n'étais pas gêné pour me procurer 6 000 francs.
À la reprise, M. Gilbert abordait le drame même. Il rappelait d'abord que M. Bessarabeau, le soir du 31 juillet 1920, après avoir dîné avec sa dactylo, était rentré vers entre 11h30 et minuit. « C'est vous, Paul Jacques, disait-il, qui lui ouvrez la porte ?»«
Comme tous les soirs, répond Mademoiselle Jacques. » Parce que ma mère se couchait de bonne heure et parce qu'il fallait quelqu'un pour le verrou de sa sûreté.
Mais, observait le président, ce verrou pouvait s'ouvrir du dehors?
Non, mon beau-père n'en avait pas la clé.
Alors, comment avez-vous pu dire que vous ne voyiez jamais votre beau-père, que vous étiez toujours couché quand il rentrait et pas encore levé quand il partait?
Je me relevais pour lui offrir la porte, et il traversait le corridor et je me recouchais.
Entre tout ça, appuya M. Gilbert, un fait est certain. Vous lui avez ouvert la porte et on ne le revit jamais. Et le 4 août, on retrouvait son cadavre dans une malle à la gare de Nancy, la tête traversée d'une balle de revolver.
Et le président, rappelant au juré dans quelles circonstances le crime avait été découvert, résumait, avec une clarté remarquable, les deux versions que donnait Madame Bessarabeau au sujet de la mort de son mari. La première dans laquelle elle reconnaissait l'avoir tué, et la seconde qui n'était qu'une rétractation de la première. « Et aujourd'hui, interrogea-t-il, quelle va être votre attitude ?»«
Il n'y aura pas d'attitude, s'écria Madame Bessarabeau avec violence. Je dirai la vérité, et je demande pardon à messieurs les jurés de ne pas l'avoir dite plus tôt. J'ai menti, oui, en disant que j'avais tué M. Bessarabeau. Non, non, je ne l'ai pas tué. Ma fille aussi est innocente, je le jure sur la tête de mes enfants et de mes petits-enfants. »
Éclatant en sanglots, Mademoiselle Jacques retombait sur son banc, en proie à une violente crise de désespoir, d'ailleurs vite apaisée. Madame Bessarabeau, qui avait récupéré tout son sang-froid, continuait.
« Mais si j'avais tué mon mari, les voisins auraient entendu du bruit. La maison était si sonore que lorsque ma fille jouait du piano, les voisins venaient se plaindre. On dit que le lendemain, il n'est pas allé à ses rendez-vous, mais combien de fois a-t-il manqué ses rendez-vous? J'ai menti, oui, j'en suis honteuse pour ma race, mais je n'ai pas tué. »
Alors, que s'est-il passé? Reprenait le président. Je voudrais pas avoir l'air de vous arracher les aveux, mais il y a des précisions qui font que vos rétractations ne sont pas pour gêner beaucoup l'accusation. Il y a le témoignage du concierge qui a porté la malle et qui atteste que les nœuds faits par lui n'ont pas été touchés jusqu'au moment où l'on trouva le cadavre de votre mari.
S'il y a une corde qui a été changée, insinua l'accusé.
C'est faux, c'est faux, proteste le président. La malle a été photographiée à Nancy avant d'être ouverte. La photographie a été montrée au concierge. Il y a eu un point de repère formel, caractéristique, pour démontrer que la malle n'avait pas été ouverte avant son arrivée à Nancy. Vous avez voulu corder vous-même la malle. Mais vous vous êtes borné à fixer le couvercle en attachant le corde au poignet. Le concierge vous a fait remarquer qu'elle risquait de s'ouvrir et a voulu refaire le cordage. Vous vous y êtes opposé. C'est alors borné à passer une corde supplémentaire. Sur la photographie, ce détail est nettement apparent, de même que les nœuds de la cordement. Le concierge les a reconnus. Ainsi, nul n'a vu M. Bessarabeau sortir de chez lui le 31 juillet. Mais par contre, on vous a vu emporter une malle et il a été formellement établi que cette malle n'avait pas été ouverte entre le moment où vous l'avez fait glisser sur un taxi et celui où ont eu lieu les constatations judiciaires à Nancy. Voulez-vous expliquer dans ces conditions ce qui s'est passé?
Madame Bessarabeau répliquait. « Je ne puis que vous répéter ce que j'ai dit à l'instruction. J'ai rempli une malle de papier compromettant pour mon mari expédier cette malle à Nancy. Je ne m'explique pas comment, à ce contenu, on a substitué un cadavre. »
Le président déclare. « Mais si j'insiste, c'est pour votre fille. Car la plus terrible accusation qu'il y ait contre vous et qui peut retomber sur elle, ce sont vos contradictions permanentes. » En levant péniblement, Mademoiselle Paul en larmes haletait.
« Ma mère n'est pas coupable, je veux partager son sort. »
Avec douceur, le président lui disait. « Voyons, ne vous obstinez pas dans une aussi fâcheuse attitude. Soyez franche, soyez sincère, parlez. » Après la version de votre mère, je suis très désireux d'entendre la vôtre. Votre attitude, si vous refusez de me répondre, laissera à croire que vous ne dites pas la vérité. »
Toujours en sanglotant, Mademoiselle Paul Jacques murmurait. J'ai souffert 2 ans à Saint-Lazare. Je suis heureuse d'être auprès de ma mère pour partager son calvaire. Je vous jure que je ne l'ai pas vu tuer mon beau-père.
Mais, nous dit notre confrère Joe London, elle ne peut continuer à s'effondre. On n'aperçoit plus que son monumental chapeau gris et sa main gantée qui pend inerte sur le rebord du box. Sa mère se penche sur elle, non pour la réconforter, mais pour lui poser cette étonnante question. Y avait-il un homme dans cette malle quand elle est sortie de cette maison? Le monumental chapeau gris ne bouge pas. Avec un sang-froid stupéfiant, Madame Bessarabot reprenait. Messieurs les jurés, je ne l'ai pas tué. Si j'avais tué mon mari d'un coup de revolver, je vous le répète, on l'aurait entendu. Le 30, je ne lui ai pas fait de menace. Je l'ai accueilli avec des exhortations. Non, je ne l'ai pas tué. Quand je me suis accusé de l'avoir tué, j'ai menti. Oui, c'est honteux pour ma race, mais je ne mentirai plus. Madame Bessarabot, dont la faconde était intarissable, se lançait dans un interminable soliloque, sorte d'autobiographie dans laquelle elle ménageait toutes les aventures de sa vie, ses relations mondaines et ses œuvres littéraires. Mais, rappelée au sujet par le président, elle faisait « Ben, c'est certainement entre le moment où j'ai laissé mon mari partir seul avec la malle et celui où elle n'a été retournée que se sont produits les incidents provocateurs. Qu'entendez-vous par là ?» questionnait M. Gilbert. C'est tout simplement la substitution du cadavre de M. Bessarabot au document que j'avais placé moi-même dans la malle. Comment et par qui cette prétendue substitution a-t-elle été faite? Je n'en sais rien. Quant au cadavre, je ne l'ai jamais vu. Il n'y a pas eu d'identification à ma présence, je le répète. Je n'ai pas tué. Et maintenant, vous pouvez m'interroger. Je ne dirai plus de mensonges. Puisque vous rétractez vos aveux, il va falloir insister, je le répète, et d'abord sur les accusations d'espionnage que vous avez portées contre votre mari. Mais je ne l'ai pas accusé d'espionnage. Mais si! Alors, décidément infatigable, l'accusée, conférencière, se mit à ergoter d'une façon aussi incohérente que si les rapports des experts n'avaient pas été là pour affirmer son entière responsabilité, on se fut demandé si réellement elle jouissait de la plénitude de ses facultés mentales. Interrompant enfin tout ce verbiage, le président s'adressa de nouveau à Mademoiselle Paul-Jacques. « Une dernière fois, lui dit-il, je vous adjure de dire la vérité. » La jeune fille balbutiait « Tout ce que j'ai pu pour saluer, céder ma mère dans sa souffrance et pour qu'elle ne souffre pas seule, je l'ai fait. » « Donnez pas une réponse à ma question. Que s'est-il passé dans la nuit du 31 juillet ?»« Mais ma mère vous l'a dit. » Et élevant la voix, Paul-Jacques affirmait « Je vous jure que je n'ai pas vu ma mère tuer mon beau-père. » « Avez-vous dit à votre mère d'envoyer la malle le plus loin possible ?»« Répondez par oui ou par non. » L'accusé se tait. Paul-Jacques, le moment est venu de rompre un silence que je ne saurais trop vous le dire est encore plus redoutable pour votre mère que pour vous-même. La jeune fille tressaillit puis s'écria. « Je répondrai plus tard s'il y a lieu. » « Et à quel moment ?» Après les assises, alors je révélerai un secret qui transformera ce procès. Mais c'est maintenant qu'il faut parler pour que nous puissions faire les vérifications nécessaires. Au milieu d'un silence tragique, Madame Bessarabot se dressait et d'une voix vibrante, elle s'écriait en foudroyant sa fille d'un regard effrayant. Relatez, tais-toi. Et se tournant vers les jurés, elle scandait avec violence. « Je ne veux plus que ma fille parle, que l'on me condamne plutôt. » Le président intervenait. « La justice n'accepte pas votre sacrifice. Il faut qu'elle sache si elle a en face d'elle des innocents ou des coupables. Parlez donc, Paul-Jacques, je vous en supplie. Non, non, ordonne la mère avec force. Un crime a été commis, ma fille en est innocente, et s'il faut que quelqu'un paye, eh bien, je parlerai.
Mais il faut qu'un coupable paye, interrompit M. Gilbert. Vous empêchez votre fille de parler, réfléchissez.
Son silence peut vous être néfaste à toutes deux.
Je pourrais vous faire sortir pour l'entendre seul, la loi m'y autorise.
Mais je n'ai pas d'aveu à faire.
Ce n'est pas une réponse qui puisse me satisfaire, déclarait le président, montrant sa fille qui, accablée, à demi évanouie, n'était plus qu'une loque humaine. Madame Bessarabeau proférait en joignant les mains ce simple cri « Pitié !» Et le président levait aussitôt l'audience. Dans ses impressions de procès parues dans le Petit Parisien, Henri Béraud s'écriait « Oh, que M. Gilbert n'a-t-il usé de son pouvoir ?» À tous, il parut trop évident que la résistance de ces deux femmes ne tenait qu'à leur double présence. Savoir qui, des amis de Bessa, comme ils appelaient familièrement le disparu, tiennent dans les corridors des propos troublants. Faut-il avec eux croire que le mystère Bessarabeau recouvre un drame à trois acteurs? Faut-il croire au contraire que tout cela n'est qu'un effet d'audience, émouvant certes, mais prémédité? Ou bien encore, y aurait-il quelque part un homme qui, terré, muet, rampant, impuni, attendrait paisiblement le fin de l'aventure? S'il existait pourtant cet homme à ce point adoré, s'il éprouvait à cette heure les affres du remords et s'il jouait au naturel cette nuit la scène fameuse des Misérables, une tempête sous un crâne, le verrons-nous dans le prétoire s'accuser avec un romantique éclat? Viendra-t-il crier au juge « Voici le coupable, saisissez-moi !» Puis le bras tendu, ces femmes sont innocentes. Ce coup de théâtre ne devait pas se produire. Les choses en effet étaient beaucoup plus simples, beaucoup moins dramatiques que ne le supposait notre brillant confrère. Le lendemain, devant une salle archibondée, le président Gilbert, avec une opiniâtreté inlassable, allait s'efforcer encore d'arracher la vérité à mademoiselle Paul-Jacques. Est-ce vous, lui demanda-t-il, qui avez, sous la dictée de votre mère, écrit le prétendu billet de M. Bessarabeau, recommandant d'expédier la malle à Nancy? Mademoiselle Paul-Jacques, les yeux éteints, le nez pincé, affreusement pâle, chancelante et fébrile, gardait le silence. Paul-Jacques, faisait remarquer le président, vous avez avoué à l'instruction que c'était vous qui aviez imité l'écriture de votre beau-père pour rédiger ce billet.
Oui, je l'ai dit, se décidait à prononcer l'accusé, mais c'était inexact. Ma mère avait dit l'avoir écrit, je voulais la sauver.
Eh bien, observait le président, l'expertise conclut que ce billet est bien de votre main.
Oh, je veux mettre les choses au point, intervenait Madame Bessarabeau. J'ai dit à un moment que le billet était de moi. C'était pour éviter à Paul la honte d'aller à Saint-Lazare au milieu des filles publiques. M. Bonhomme avait fait dire par un inspecteur de la sûreté que si je faisais cet aveu, ma fille ne serait pas inquiétée.
Oh, je suis bien certain, déclarait le président, que M. Bonhomme n'avait chargé personne de ce singulier marché. Puis il ajouta, Paul-Jacques, avez-vous frotté le parquet de l'appartement du square La Bruyère le 2 août 1920 pour en effacer les taches de sang? Mademoiselle Paul-Jacques ne répond toujours pas.
Oh, je comprends que vous soyez gêné, admettait le président, mais votre silence est éloquent. Pourtant, vous avez déclaré à l'instruction que vous aviez lavé ces taches de sang.
Toujours le même silence. Alors, M. Gilbert, ayant épuisé toutes les ressources de la persuasion, donnait l'ordre aux gardes d'emmener Mme Bessarabeau. Dès qu'elle eut disparu avec ses gardes, M. Gilbert disait à sa fille : « Vous avez prononcé hier une parole très grave.
Il faut que vous alliez jusqu'au bout de votre pensée. Il ne faut pas que messieurs les jurés puissent croire que c'est une nouvelle combinaison entre vous et votre mère. Vous avez parlé de mystère. Il ne peut pas y avoir ici de mystère. Si vous vous taisez, messieurs les jurés apprécieront votre silence. Et je vous le répète une dernière fois, il ne faut pas que l'on puisse croire à une manœuvre de votre part. Très pâle, toute tremblante, mademoiselle Paul-Jacques murmurait « Je ne veux rien dire. Réfléchissez !» Près d'une minute s'écoulait, longue à n'en plus finir, avant que la jeune fille desserrât les lèvres. Enfin, elle se décidait à dire « Ce secret, ma mère me l'a confié à l'infirmerie de Saint-Lazare quand j'étais malade. Elle m'a dit la vérité. » Maître de Morogiaferi se dressait et avec une émotion communicative, il s'écriait « C'est maintenant qu'il faut parler. Il y a dans cette affaire un mystère. Paul-Jacques, je vous adjure de le dire tout de suite. « Vous avez entendu l'appel de la défense, » faisait le président. « Et si vous n'y répondez pas, toutes les suppositions seront permises. » « Mais parlez, parlez !» s'écriaient en même temps le président, l'avocat général et les défenseurs. Mais, avec un entêtement extraordinaire, mademoiselle Paul-Jacques répondait « Ma mère ne veut pas, je vous jure que c'est pourtant intéressant. »« Il serait encore plus intéressant, » fait monsieur Gilbert, « que vos juges le sachent. Une dernière fois, voulez-vous parler ?»«
Je ne peux pas. »
Au milieu des murmures désappointés de l'assistance, le président donnait l'ordre de faire rentrer Madame Bessarabo. « Madame, lui dit-il, je vais insister auprès de votre fille pour qu'elle parle. Elle n'a rien voulu dire, parce que vous lui aviez défendu de parler. C'est donc auprès de vous que j'insiste maintenant. Vous ne devez pas laisser les jurés dans l'incertitude. Si vous avez quelque chose à dire, parlez. » « Messieurs les jurés, répliquait Madame Bessarabo, je ne peux pas. Tout ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas tué. Mais quel profit aurais-je à le nier si j'avais tué? Si je l'avais fait, je pourrais vous dire ce que fut Monsieur Bessarabo, ce que j'ai payé pour lui, et je vous dirais « Eh bien oui, j'en ai eu assez, à la fin j'ai tué. Pardon, pardon, vous crierais-je, et nous serions sauvés. » Mais je ne puis vous dire cela, car cela n'est pas. Ah, comme notre situation est terrible. Vous demandez à ma fille de vous raconter une chose qu'elle n'a pas vue, car elle ne l'a pas vue. Et moi, est-ce mon rôle d'accuser quelqu'un ici? Ce serait épouvantable. J'en appelle à la France et à tous les Français. Oh, laissez la France et les Français, coupait le président. Ils ne sont pas en cause. « Mais si, s'obstinait l'accusé, il s'agit d'honneur, de conscience. Je suis ici pour me défendre, non pour accuser. J'ai confié un secret à ma fille à l'infirmerie de la prison Saint-Lazare, quand je la croyais mourante, et j'irai le répéter ici. Non, mais quelle femme serais-je ?»« Enfin !» s'écriait monsieur Gilbert. « Vous persistez à prétendre que vous n'avez pas tué M. Bessarabo. »«
Non, je ne l'ai pas tué. »«
Et qu'il n'y avait pas de cadavre dans la malle. »«
Bien sûr qu'il n'y avait pas de cadavre. »«
Alors quand ce cadavre a-t-il été placé ?»«
Est-ce que je sais ?»
Sentant qu'il ne retirait rien de la mère et de la fille, M. Gilbert concluait « Messieurs les jurés, j'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour faire parler les accusés. Elles s'y sont refusées. Je ne puis insister davantage et éterniser cet interrogatoire. Vous apprécierez. »